Ce mardi 5 mars, l'association Attaque Artois vous invite à une rencontre débat sur le thème évasion fiscale et paradis fiscaux. Ça se passera à la Maison des Sociétés, rue Aristide Briand à Arras. L'intervenant, ce sera Éric Vernier, maître de conférence à l'Université du Littoral, chercheur et spécialiste du blanchiment de capitaux et de la fraude fiscale. On vous propose d'écouter notre entretien par téléphone avec Éric Vernier. On lui a d'abord demandé de nous éclairer sur les différents termes, fraude, optimisation, évasion, blanchiment, de quoi parle-t-on exactement, Éric Vernier?
Il y a effectivement souvent une confusion entre les différents termes liés à ce qu'on va appeler globalement la fraude fiscale, mais derrière il y a effectivement des connotations très différentes. La fraude fiscale, c'est effectivement la personne qui cherche à cacher, par exemple, une partie de ses revenus, donc qui veut vraiment tromper les administrations fiscales. On a l'optimisation fiscale qui est, elle, est légale et qui est le fait de chercher à amoindrir son imposition, mais en utilisant tous les systèmes légaux, les incitations, les niches fiscales. Et puis, il y a entre les deux quelque chose d'un peu plus flou qu'on appelle l'évasion fiscale. Et donc là, le juge décidera, lorsqu'il aura à décider, si on est plus dans l'optimisation fiscale ou plus dans la fraude fiscale. Et c'est souvent l'abus de droit qui est la variable principale, c'est-à-dire lorsque j'utilise des techniques légales mais que j'en abuse trop, je tombe plutôt dans la fraude fiscale et c'est interdit.
Alors, la fraude fiscale, est-ce que c'est un épiphénomène ou c'est quelque chose qui, selon vous, est au cœur du système actuel ?
Alors, le dernier ouvrage que j'ai écrit a eu pour sous-titre, c'était le nouveau sous-titre de cette deuxième édition, donc « Fraude fiscale et paradis fiscaux », le sous-titre c'est « Quand l'exception devient la règle ». Et c'est justement pour montrer qu'aujourd'hui, alors ça n'est pas nouveau, mais en tout cas aujourd'hui, on a de plus en plus la preuve que le système de fraude fiscale et l'usage des paradis fiscaux sont devenus non pas un épiphénomène, non pas une exception, mais la règle, c'est-à-dire partagée par tous, de l'artisan, du particulier jusqu'au multinational ou au baron de la drogue.
Alors, est-ce qu'on peut, on entend parler d'estimation, 60, 80 milliards qui échappent à l'État, comment vous évaluez ça? Et puis finalement, comment on fait pour estimer de l'argent caché?
Alors comment évaluer? Il y a plusieurs méthodes. L'une des méthodes qui est utilisée notamment par le syndicat des impôts, c'est de regarder sur le nombre de contrôles combien il récupère, en tout cas combien il y a eu de fraude et donc derrière de redressement, et ensuite de multiplier par le nombre de contribuables. Et on arrive aujourd'hui non plus à 60 à 80 milliards, mais plutôt entre 80 et 100 milliards d'euros de pertes sèches pour l'État. Donc ça, c'est une première méthode. Ensuite, il y a des méthodes qui sont plus liées sur des approches macroéconomiques et de regarder un petit peu entre ce qui est déclaré dans certains pays et ce qui est déclaré dans d'autres, et de se dire s'il y a un différentiel, c'est qu'il y a à un moment donné de l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux. Et là, on a des chiffres qui sont plus globaux et qui concernent des régions plus vastes jusqu'au monde entier. Et là, on a quelqu'un comme Gabriel Zucman qui arrive à un chiffre de 8000 milliards cachés dans les paradis fiscaux actuellement. Donc avec ces chiffres, il y a bien d'autres études, on arrive à peu près à avoir une fourchette, alors qui est très large, mais qui nous donne quand même une idée de l'ampleur du phénomène. Et on est effectivement, si on prend la France, aujourd'hui entre 80 et 120 milliards d'euros de pertes annuelles pour l'État. Voilà la fourchette que l'on a aujourd'hui.
Entre 80 et 120 milliards, ça résoudrait bien des problèmes. Il y a qu'à les récupérer, ces sous. Comment on fait? Qu'est-ce qui est fait pour lutter?
Oui,
d'abord
alors effectivement, on peut dire que si l'État pouvait récupérer l'ensemble de son dû, en quelque sorte, il n'y aurait plus de problème aujourd'hui, en tout cas provisoirement peut-être, mais aujourd'hui il n'y aurait plus de problème puisque tous les soucis budgétaires seraient réglés et on pourrait même baisser l'impôt. Donc la lutte contre la fraude fiscale est centrale. central. Ça n'est pas juste de se dire il y a quelques personnes qui mettent un peu d'argent de côté et je vais donc leur tomber dessus et les embêter. Non, c'est vraiment de se dire aujourd'hui l'argent qui n'est pas récupéré, c'est autant de difficultés pour l'État, c'est autant de postes d'infirmières ou d'enseignants en moins et c'est autant d'impôts en plus pour justement ceux qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, comme on dit. Donc ça, c'est la première chose, c'est bien avoir en tête qu'effectivement, il faut absolument lutter contre la fraude fiscale et sociale. Lorsqu'on parle de fraude fiscale, on entend souvent, en même temps, on englobe la fraude sociale, qui représenterait, selon certaines études, une vingtaine de milliards. Alors maintenant, comment fait-on ? Je crois qu'il y a une première chose, c'est de moderniser les outils de l'administration fiscale. C'est a priori en train de se faire, mais c'est assez long, puisqu'on a d'un côté une administration fiscale qui est un petit peu désuète face à des fraudeurs qui sont de plus en plus pointus et qui utilisent toutes les possibilités actuelles, même en termes de nouvelles technologies. D'autre part, il faut peut-être repenser l'impôt, avoir un impôt qui sera mieux contrôlé et surtout un peu plus adapté au temps moderne, puisque il faut quand même rappeler que les impôts que nous payons sont des impôts qui ont été inventés pour certains il y a plus d'un siècle. Et donc, il faut peut-être repenser. Alors le prélèvement à la source est une réponse, même si ça a été fait de peut-être pas de la meilleure manière possible. Et puis, au niveau du contrôle, donc a posteriori, il faut peut-être allouer les ressources humaines et financières au bon contrôle. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on met beaucoup plus de volonté à contrôler le chômeur qui fraude ou le RMIste qui fraude qu'à contrôler les grands fraudeurs fiscaux. Et donc là, je crois qu'il y a une réflexion à mener autour de qui fait quoi et quels sont les moyens alloués à telle ou telle fonction. Malheureusement, et ça n'est pas uniquement le cas de la France, malheureusement, les choix ne sont pas forcément ceux auxquels on pourrait s'attendre.
Suite de notre entretien avec Éric Vernier, chercheur et spécialiste du blanchiment de capitaux et de la fraude fiscale. Il sera à Arras mardi prochain, mardi 5 mars, à l'invitation d'Atta Cartois.
On peut pas dire que l'État ne fasse rien, mais on sent quand même un manque de volonté politique sur ce dossier. Qu'est-ce qui explique ce manque de volonté selon vous ?
Alors il y a quand même eu un peu plus de volonté à mon avis suite à l'affaire Cahuzac. Il y a eu un sursaut, même si il est très insuffisant et très imparfait. Et à l'époque, je ne m'attendais pas non plus à un grand bouleversement. Mais il y a eu quelques avancées, même internationales, depuis l'affaire Cahuzac notamment, et depuis tous les grands scandales que nous avons pu connaître. Maintenant, effectivement, on sent que les gouvernements, qu'ils soient en français ou étrangers, que ce soit le gouvernement actuel ou les précédents, il y a une certaine velléité, c'est-à-dire bon, on annonce, on fait quelques mesures et puis on essaie de passer à autre chose. Alors les explications sont nombreuses. Il y a d'abord le lobbying de certains grands groupes, de certains secteurs d'activité qui réussissent à finalement à avoir des avantages et à négocier pour ne pas être trop embêtés ni trop contrôlés par la suite. Il y a même des lois maintenant qui permettent de se repentir. Donc on fraude et puis si on est attrapé, on se repent et tout va bien. Donc ça, c'est l'affaire des lobbying et de l'entourage du gouvernement. Ensuite, on a le fait que dans la fraude, il y a des territoires qui sont mis en cause, notamment les fameux paradis fiscaux, et que ces territoires sont parfois amis de la France, amis de tel ou tel État, et donc on essaye de pas trop l'ennuyer et donc de les laisser continuer à œuvrer. Et puis il y a le problème de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe fonctionne avec une certaine raideur et surtout un consensus. Et il faut savoir que, par exemple, la liste des paradis fiscaux européenne ne peut pas contenir, par définition, ne peut pas contenir de pays européens. Parce que on estime qu'en Europe, tout le monde joue le jeu et donc on ne peut pas montrer du doigt un de ses partenaires. Et donc là, on a déjà un gros problème, puisque en Europe, on a de nombreux paradis fiscaux. Pour en citer quelques-uns, on a l'Irlande, on a les Pays-Bas, on a même la Grande-Bretagne. Et ces pays ne sont pas considérés comme des paradis fiscaux. Donc, du coup, ça facilite les possibilités de fraude.
Il y a des syndicats qui dénoncent la fraude fiscale depuis de nombreuses années. Il y a des associations aussi, comme Anticor. Et puis, récemment aussi, dans les mouvements sociaux, on entend parler de cette question de la justice fiscale. Est-ce que la mobilisation populaire a un rôle à jouer là-dedans, sur des choses qui pourraient sembler nous échapper, des choses loin, compliquées, difficiles à aborder aussi?
Oui, alors déjà par rapport au mouvement actuel, alors même si je n'avais pas prévu, j'aurais été vraiment devin si je n'avais pas prévu la forme de ce mouvement, en tout cas ça fait à peu près 20 ans que je tire le signal d'alarme en disant attention, à force de ne rien faire contre la fraude fiscale, contre les fraudeurs, à force de fermer les yeux sur les affaires politico-financières, on va avoir à un moment donné un ensemble de citoyens qui vont craquer et qui ne vont plus supporter la situation face à cette injustice fiscale, ce que j'appelle l'inéquité fiscale, hein, d'un côté des gens qui payent et qui sont contrôlés et s'ils ont un peu fraudé, on leur tombe dessus. Et de l'autre côté, des gens plus puissants qui font à peu près ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est le ressentiment. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'il y a eu une grande affaire, j'ai parlé de l'affaire Cahuzac, mais il y en a eu d'autres, à chaque fois, c'est notamment l'extrême droite qui gagne des points dans les sondages, voire aux élections. Et donc, ça fait des années que je dis attention, à force de ne rien vouloir faire, non seulement ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème budgétaire, mais ça va aussi poser un problème de démocratie et un problème social. Et donc, finalement, le mouvement des Gilets jaunes est une des conséquences qui pouvait être prévue, en tout cas, peut-être pas sous cette forme, mais qui était envisageable. Je crois qu'effectivement, les choses ne changeront que si la base pousse à ce que ça change. Je compare toujours la lutte contre la fraude fiscale et aussi la lutte contre le blanchiment et la criminalité, puisque ça fait partie de mon champ de recherche et de travail. La lutte ne pourra venir que de la base, comme la lutte contre les problèmes environnementaux et les problèmes écologiques est venue aussi de la base. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre que ça vienne d'en haut pour plein de raisons, dont certaines que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, effectivement, le mouvement va peut-être amener à certains changements. Pour le moment, c'est encore très très timide on en est qu'à des déclarations. Mais la pression peut effectivement pousser à changer les choses. Et comme vous le disiez, les ONG comme Anticor, comme Sherpa, comme Transparency International, les experts comme mes confrères et moi-même vont peut-être amener à ce que les gouvernements bougent.
Dernière question, il y a d'autres acteurs importants dans cette lutte, ce sont les médias et notamment les médias d'investigation et puis on peut citer aussi les lanceurs d'alerte.
Oui, alors c'est l'autre pendant et je crois qu'ils sont assez efficaces. Hein. Je parlais justement des grands scandales internationaux, Panama Papers, Paradise Papers, Implant Files, etc. Tout ça est venu notamment de l'ICIJ, c'est-à-dire le consortium international des journalistes d'investigation. Et on a en France, dans ce réseau, Mediapart, Le Monde, Radio France, France 2. Je participe à quasiment toutes les analyses techniques de ces affaires pour justement ces médias et effectivement depuis qu'il y a ces médias de plus en plus présent et ces enquêtes mondiales qui se développent, il y a forcément en face l'obligation de réagir. Donc je crois que oui, les médias et les lanceurs d'alerte sont nécessaires et sont même centraux. Si on prend la dernière affaire en date, c'est-à-dire le procès UBS, qui est condamné à payer avec les indemnités et les pénalités 4,5 milliards d'euros à la France pour une histoire de blanchiment de fraude fiscale, ça n'a pu se faire que parce qu'il y a eu deux lanceurs d'alerte en France, Stéphanie Gibaud et Nicolas Forissier, et parce qu'il y a eu Le Monde puis Mediapart qui se sont emparés de l'affaire.
Éric Vernier, maître de conférence à l'Université du Littoral, chercheur spécialiste du blanchiment de capitaux et de la fraude fiscale. Entretien réalisé mardi dernier par téléphone. Vous pourrez discuter et poser vos questions à Éric Vernier à Arras lors de cette rencontre débat organisée par Attac Artois. C'est ce mardi 5 mars à 19h. Rendez-vous à la Maison des Sociétés, rue Aristide Briand.